Et il est 9h42 ici à Paris, tout de suite c'est le journal des sports. On revient avec vous Victor Messistrano sur cette très belle victoire de l'équipe de foot du Sénégal hier soir en Angleterre.
Les Lions de la Teranga ont créé la sensation à Nottingham en remportant ce match amical de prestige 3-1. Ils deviennent la première équipe africaine à battre la sélection anglaise en 21 confrontations. Le capitaine anglais Harry Kane a pourtant ouvert le score en début de partie, mais comme lors du match nul vendredi dernier en Irlande, c'est Ismaïl Assar qui a égalisé. Et à l'heure de jeu, Habib Diarra puis Cheikh Sabali ont permis aux Sénégalais de se détacher. La longue série d'invincibilité se poursuit. Toujours pas de défaite depuis l'élimination à la CAN de 2024 face à la Côte d'Ivoire. Et une prestation très aboutie selon le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly.
On savait que ça allait être difficile, on savait qu'il fallait avoir de la mentalité. Après ce but qu'on a pris, je pense qu'on a montré que le Sénégal avait beaucoup de mentalité. On a montré du beau jeu, on a essayé de montrer notre identité. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis fier des joueurs ce soir, parce qu'on a montré un grand Sénégal. Et c'est de bonne augure pour le futur.
Voilà la satisfaction de Kalidou Koulibaly au micro de Karim Baldé. La suite pour le Sénégal, ce sera au mois de septembre avec un match contre la RDC, capitale dans les éliminatoires pour le Mondial 2026. Le Brésil a décroché cette nuit d'ailleurs son ticket en battant le Paraguay 1-0. Un but de Vinicius pour la toute première victoire du nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti.
Au même moment, Victor, la Côte d'Ivoire affrontait le Canada à Toronto. Les champions d'Afrique terminent leurs deux matchs amicaux sans le moindre but.
Déjà battu par la Nouvelle-Zélande 1-0 ce week-end, les éléphants n'ont pas montré grand-chose contre l'équipe canadienne 0-0. Pas de but non plus hier entre le Burundi et la Mauritanie à Casablanca, la ville marocaine, où le Niger a été tenu en échec par le Zimbabwe, un but partout. Très rapidement mené, les Nigériens ont égalisé à la 71e minute sur pénalty, un pénalty inscrit par Victorien Adebayor. Le capitaine du MENA, Youssouf Oumarou, regrette le début de match manqué de son équipe.
Je l'avais dit que ce match allait être compliqué. Après, d'entrée de jeu, on n'y était pas, on se met en difficulté. Heureusement qu'il y a eu la réaction. On aurait pu scorer plusieurs buts, mais bon, on n'a pas pu le faire. Mais bon, on finit quand même match nul, c'est pas mal. Là, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Vous savez que c'est la fin de saison. D'autres sont en congé, d'autres encore vont reprendre bientôt. Il n'y a pas assez de temps, il y a trop de fatigue. Donc, je crois qu'on n'a quand même pas été ridicule, puisqu'on a dominé le match du long en large. Et là, on va travailler pour le mois de septembre, parce qu'on aura des gros matchs.
En septembre, le Niger affrontera le Maroc et la Tanzanie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Enfin, un dernier résultat, l'Algérie affrontait la Suède près de Stockholm. Les Fennecs étaient menés 4-0 à l'heure de jeu, Andréane. Ils ont fini par réagir pour s'incliner seulement 4-3 après des buts de Benacer, Benzia et Bentaleb.
Et puis sur le tour du Cameroun, un cycliste algérien s'est imposé hier.
Islam Mansouri a remporté la 6e étape, un succès qui lui permet de grimper à la 2e place du classement général. À seulement 12 secondes du maillot jaune, le Camerounais Boris Michel tient le cheu. Enfin, sur le parquet de Pretoria, place aux demi-finales de la balle. Al Ahly Tripoli a perdu Rwanda à 14h temps universel. Et toujours en basket, Al Ittihad Alexandrie Petro de Luanda, c'est à 17h temps universel.
Pretoria, comme à Paris où il est 9h45. Merci Victor Messistrano. Troisième épisode ce matin de notre série de reportages consacrée à la pollution plastique dans l'océan Indien, au troisième jour de la conférence de l'ONU dédiée. C'est à Nice, l'océan Indien, où on en parle depuis le début de la semaine. Les recherches sont moins fournies que pour le Pacifique, par exemple. Les études sont en cours concernant l'océan Indien et l'une d'elles, notamment, est inédite. Elle vise à connaître le risque microbiologique pour l'homme et pour l'environnement marin de toutes les bactéries pathogènes qui arrivent à se coller sur les plastiques qui flottent en mer et à survivre. Recherche menée par une équipe franco-malgache dans le cadre du projet Exploit. Sarah Teto nous emmène à la rencontre de ces scientifiques au large des Seychelles.
Laïa, ralenti. Tiétane, tu le vois ? Sur bâbord ? Ouais, nickel.
Ce matin, dans le lagon de l'île de la Digue, pendant qu'une partie de l'équipe scientifique collecte les macroplastiques, d'autres prélèvent des échantillons à terre, dans le sable.
Attends, je vais gratter là déjà. Après, tu coupes.
Thierry Bouvier, écologiste microbien marin et chercheur au CNRS et à l'IRD, assiste Rakoudvar Hermin, doctorant à l'Institut halieutique et des sciences marines de Tuléa.
En fait, ça se voit, hein. Ce plastique, il a séjourné dans l'eau, en fait. Il est colonisé par un certain nombre de choses. On voit des biofilms, on voit des petites taches qui sont dues à du développement pendant son séjour en mer, en fait. Et après tout ce séjour qu'il a passé en mer, il s'est échoué et là, on l'échantillonne maintenant, quoi.
Et voilà, on va le conserver pour des analyses génétiques plus tard, pour estimer la diversité de ces bactéries qui sont associées au plastique.
De retour au laboratoire embarqué à bord du navire Le Plastique Odyssée, les deux chercheurs extraient aux ultrasons les bactéries réfugiées sur les plastiques collectés à la plage et en mer, puis les mettent en culture. Objectif, savoir quelles sont celles qui peuvent potentiellement infecter les humains et qui ont survécu au soleil et à la salinité. Et les premiers résultats obtenus par Rakudvar et Hermine sont pour le moins préoccupants.
J'ai découvert qu'il y a environ 300 fois plus de bactéries potentiellement pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent entraîner des infections pour l'homme sur les macroplastiques que dans l'eau de mer. On a trouvé des bactéries d'origine fécale, comme Escherichia coli, qui provoque des infections intestinales, Klebsiella pneumoniae, qui provoque des infections pulmonaires. Et là, mon objet de test, c'est de savoir la durée de vie de ces bactéries lorsqu'ils sont hébergés dans les plastiques pendant le séjour des plastiques en mer.
Le tapis microbien, cette espèce de film gluant qui se développe à la surface des plastiques en mer, offre-t-il un écosystème refuge pour les bactéries d'origine humaine? Contrairement à l'eau de mer qui ne permet pas à ces bactéries de survivre très longtemps, les premiers résultats montrent que ces bactéries sont véritablement plus nombreuses sur les plastiques que dans l'eau et surtout encore vivantes. Certaines d'entre elles ont même été observées dans l'intestin des animaux qui consomment ces plastiques. Les études en cours devraient permettre de dresser différentes conclusions sur les risques pour la santé humaine. Sarah Tetto, de retour de la digue RFI.
Toute cette série de reportages est à écouter sur notre site RFI.fr. Au Congo-Brazzaville, la fin d'une mesure controversée, la mise à disposition de terres, notamment pour des projets agricoles à des entreprises rwandaises. Des accords avaient été signés en 2022, mais ils avaient provoqué un tollé dans une partie de l'opinion qui réclamait plus de transparence. Aujourd'hui, selon le gouvernement congolais, puisque rien n'a été fait sur ces terres, les conventions sont déclarées caduques. C'est notre dossier Afrique Économie ce matin avec Alexis Bédu.
C'est une déclaration qui a fait grand bruit jeudi dernier lors de la conférence de presse de la quinzaine du gouvernement congolais. Thierry Mungala, porte-parole et ministre de la Communication.
La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé.
Dossier terminé, même si aucun document officiel sur cette résiliation n'a été fourni. Les entreprises titulaires d'un bail sur ces terres auraient été notifiées. Ce que dit le porte-parole du gouvernement congolais Thierry Mungala, c'est qu'une clause dans les contrats initiaux prévoyait que si aucun projet n'avait été réalisé au 8 décembre 2024 sur les zones, l'accord devenait caduc.
Figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé.
Les zones d'ombre restent immenses dans ce dossier. On trouve trace dans le journal officiel congolais du 18 mai 2022 de la mise à disposition de 12 000 hectares dans le département de la Bouenza à la société Eleveco Congo pour une durée de 20 ans. Il s'agit d'une filiale du conglomérat Crystal Ventures, propriété du FPR, le parti au pouvoir au Rwanda. Mais ce qui inquiétait Kinshasa, c'était surtout l'accord concernant la zone économique spéciale de Maluku, des terres à 70 km de Brazzaville, au bord du fleuve Congo, juste en face de la RDC, dont la gestion avait été confiée à la holding rwandaise. Brazzaville s'est toujours justifié sur ce rapprochement avec Kigali, explique le journaliste économique indépendant Alphonse Dongo.
Dans un premier temps, on a fait prévaloir le principe de coopération sud-sud à travers cet accord. Ce que nous constatons, c'est que il y a comme une espèce de reculade du côté de Brazzaville et par conséquent, est-ce que ce n'est donc pas la pression populaire? Ces accords ont été absolument critiqués par l'essentiel du peuple congolais, qu'il s'agisse des hommes politiques, de l'opposition et même parfois de manière confidentielle par ceux qui sont au pouvoir.
Mais ce dossier est-il vraiment clos? Le ministre des Affaires étrangères rwandais assurait ce mardi n'avoir reçu aucune information allant dans le sens d'une résiliation des contrats.
Alexis Bédu pour Afrique Économie à Brazzaville, il est 8h52, musique. Ça commence ce soir à Toulouse, dans le sud de la France, la 30e édition du festival Rio Loco, avec des concerts à la Prairie des Filtres jusqu'à dimanche. Et parmi les nombreux artistes présents dans la programmation, le groupe toulousain Raccoon Tycoon, c'est notre choix musical aujourd'hui. Bonjour Lisa Giroldini.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Raccoon Tycoon, raton laveur en anglais, est un quatuor de cosmic groove, un genre musical original présenté dans leur album Ernest Spaceship.
Et cet album concept raconte une histoire fantastique. Les morceaux s'enchaînent comme les chapitres d'un livre pour nous emmener dans un voyage intergalactique où des scientifiques se battent contre l'interdiction du groove.
En l'an 53, après le coup d'état de Zork et la chute du royaume syncopé, le groove est toujours prohibé. Son armée galactique, dirigée par le général Vardox, a pour mission de traquer et éradiquer le groove. Au cours d'une expérience, un raton laveur affamé s'invite dans leur laboratoire et tombe dans le champ.
Dès la première piste du disque, on est donc embarqué dans l'espace à bord de ce mystérieux vaisseau spatial pour une quête vers le groove qui durera tout au long de l'album. Une histoire créée dès les premières sessions de travail par les musiciens du groupe, rapidement motivés par l'envie d'aller plus loin dans leur créativité et de ne pas se restreindre à la musique seulement. D'où cette histoire originale illustrée lors des lives avec des vidéos de stop motion.
À côté musique, les membres de Raccoon Tycoon s'inspirent beaucoup de la scène londonienne.
Parmi leurs influences, on peut citer le batteur Youssef Days, le groupe de jazz futuriste The Comet Is Coming, mais aussi le jazz fusion des Américains de Snarky Puppy et la néo-soul australienne de Hiatus Coyote. Ils ont pris chez ces artistes l'esprit futuriste, les arrangements hypnotiques, les ambiances onériques et le goût pour l'improvisation. Léo Coleman, le claviériste du groupe.
L'improvisation, elle a une immense place dans la musique de Raccoon Tycoon. On peut retrouver des impros dans tous les morceaux, dans les accompagnements aussi, notamment en live. Bon, il y a quand même des structures et des points de rendez-vous, mais en live, on fait très rarement les mêmes accompagnements, on suit beaucoup l'improvisateur, on sert la musique le plus possible et on sert l'émotion que l'improvisateur a envie de mettre.
Alors ce genre d'ambiance très lumineuse et dansante qu'on entend se déploie dans tous les premiers morceaux et d'un coup au milieu du disque tout change.
Oui, car l'épopée fantastique se poursuit avec une arrivée sur une planète morte, silencieuse, saccagée par l'arrêt du groove. Plusieurs titres sont alors comme sous tension avec des pédales d'effet sur tous les instruments pour produire des textures assez sombres, bande originale d'un monde parallèle. Puis en fin d'album, on aperçoit une lueur d'espoir notamment avec ce titre Escape.
C'est un morceau assez important pour nous parce qu'il raconte le réveil du groove. Ernest est acclamé par le peuple à ce moment-là parce qu'il vient de réveiller le groove. Donc on est sur une ambiance assez légère, scintillante. Et puis à la fin, on arrive d'un coup sur cette étape de combat. Ernest se retrouve face à Vardox, qui est le général qui vient le chercher pour qu'il arrête de réveiller le groove.
Voilà, c'est un jazz nouveau, frais, une odyssée spatiale entre récits fantastiques et cosmic groove menée par des musiciens des plus créatifs.
Le groupe Raccoon Tycoon a retrouvé donc samedi à Toulouse au festival Rio Loco qui débute donc ce soir. Merci Lisa Giroldini d'être venue nous en parler.
Avec grand plaisir.
On écoute un tout dernier titre, Galactic Club. We'll be right back. Raccoon Tycoon, le groupe toulousain, notre choix musical ce matin. C'était un plaisir d'avoir passé cette matinée avec vous, RFI Matin, à la technique. Christophe Pernet, à la rédaction en chef, Gaëtan Plenet et Pierre Pinto. Rendez-vous sur notre site pour retrouver tous nos programmes, nos éclairages, www.rfi.fr. Dans deux minutes, le journal. Et moi, je vous laisse tout de suite avec Juan Gomez. Bonjour Juan.
Bonjour Andréane Mélard, bonjour à toutes et à tous.
Au programme d'appel sur l'actualité aujourd'hui, cette question qu'attendent les auditeurs de la conférence de l'ONU sur l'océan.
Oui, conférence qui se tient à Nice, dans le sud de la France. Les délégations de plus de 120 pays ont fait le déplacement. L'Afrique est particulièrement concernée. Sur les 54 pays du continent, 39 sont côtiers. Et les pays enclavés sont également concernés car ils ont besoin de débouchés maritimes. Alors quels sont les enjeux pour votre pays? Qu'attendez-vous de cette conférence? Vos témoignages, vos réactions, 33 9 693 693 70. Andréane, bonne journée.
Bonne journée.
Et à demain.
Et à demain.
Dans une minute, le journal.
Priorité santé. Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
Santé et environnement quand les hôpitaux et les médecins se mettent au vert.
Demain.
L'albinisme, une maladie rare, héréditaire et non transmissible.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.